Alors bonjour de nouveau et en tout cas bienvenue à chacun d'entre vous. Et si on a la possibilité de distribuer des Bibles, voilà, si vous n'avez pas une Bible papier sous les yeux, et qu'on puisse lire ensemble le texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Romains chapitre 3. Donc on est en train de poursuivre notre lecture de cette épître et nous sommes parvenus donc au chapitre 3 et on lira donc à partir du verset 21. Et donc pour les Bibles, on est à la page 734 du Nouveau Testament, j'imagine. Donc 734 et je vous invite à suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est rien de moins que la parole de Dieu. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs ? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Je dois commencer ce message par une confession personnelle. J'ai une tendance maladive à me comparer aux autres. Et cette tendance maladive m'amène à estimer que je suis en fait meilleur que les autres. Je pense que je ne suis pas si mal et que ce sont les autres qui ont un problème. Alors, j'ai aussi des problèmes, mais moins que les autres. Est-ce que vous savez de quoi je souffre ? Quel est le nom de cette maladie ? Alors, j'ai cru entendre orgueil, c'est ça que vous avez dit ? L'orgueil, la surestime de soi, la fierté personnelle, le complexe de supériorité, et bon, voilà, vous avez compris. Les chrétiens qui vivaient à Rome et à qui l'apôtre Paul adresse dans sa lettre, à qui l'apôtre Paul s'adresse dans sa lettre, ne s'entendaient pas bien entre eux. Sans doute la faute à cet orgueil, à ce complexe de supériorité. Certains s'estimaient meilleurs que les autres. Et cela fait beaucoup de mal. Cela faisait en tout cas beaucoup de mal à l'unité que les chrétiens étaient censés vivre. Et nous pouvons aussi le constater de nos jours, et en particulier dans notre Église. Et je vais le dire franchement. J'ai constaté, et j'ai été témoin, que certains d'entre nous ici s'estiment meilleurs que les autres. Et cette pensée d'orgueil qui nous caractérise, qui me caractérise et qui peut nous animer à tout moment, fait beaucoup de mal à l'harmonie dans laquelle nous sommes appelés à vivre en tant que frères et sœurs en Christ. C'est tellement contraire à la volonté de Dieu. Mais Paul, inspiré par le Saint-Esprit, sait ce qui peut remettre les chrétiens dans la juste perspective. Et vous savez ce que c'est ? il leur parle de l'Évangile. Comme nous l'avons vu depuis le début de cette lettre. Et précisément dans le texte d'aujourd'hui, il leur parle de la justification par la foi. Pendant plusieurs chapitres, depuis Romains 1, verset 18, Paul n'a cessé de marteler que juifs comme non-juifs sont pécheurs devant le Dieu juste et saint. Et à ce niveau-là, ils sont égaux, effectivement. Même si, pour le juif, du fait de l'histoire de son peuple, eh bien, il a quand même eu l'immense privilège d'avoir la révélation de Dieu en avant-première. Mais qu'est-ce que ça a changé ? Cela ne fait pas de lui quelqu'un de meilleur que le non-juif, en l'occurrence. Et Paul ne s'arrête pas à cette réalité malheureuse que tous ont péché, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il en vient à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le verset 28 de notre texte résume bien l'idée principale de Paul ici. « En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Il existe donc, et nous l'avons dit au début du culte, il existe donc un moyen pour l'homme pécheur de ne pas être condamné par Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Et c'est ce qui va aussi nous conduire à exclure, à bannir toute raison de nous vanter. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir de la part de quelqu'un un cadeau sans raison précise? Oui? Non? Est-ce qu'on vous a déjà offert un cadeau sans qu'il y ait une raison derrière ou une explication? Oui, ça vous est déjà arrivé? Ce n'était pas votre anniversaire, ce n'était pas Noël, ce n'était pas la Saint-Valentin, ce n'était pas le jour de votre remise de diplôme, ou bien le jour de votre baptême, ou de votre mariage, ou un baby shower. Je pense qu'il y a de multiples occasions de s'offrir des cadeaux. C'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà reçu donc un cadeau sans raison précise? Et si oui, quelle a été votre réaction? Quelle a été votre réaction? Dans un premier temps, sans doute la surprise, parce que vous ne vous y attendiez pas. Et dans un deuxième temps, la question, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'offres ce cadeau? À quelle occasion? Et cette question du pourquoi, elle est révélatrice, je trouve. Parce qu'elle indique que d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir une bonne raison d'offrir un cadeau. Et sans doute que nous avons au fond du mal à accepter l'idée de recevoir un cadeau que nous ne méritons pas. Parce que quand je repense aux exemples que je vous ai donnés, bah oui, remise de diplôme, en fait, on mérite les cadeaux qu'on reçoit. Anniversaire, bah oui, on mérite aussi, parce que c'est notre anniversaire à ce moment-là. La Saint-Valentin, bah oui, on s'échange des cadeaux parce qu'on est un couple et que, oui, on mérite ça de la part de l'autre. Mais on a plus de mal à accepter l'idée d'un cadeau qu'on ne mérite pas du tout. Sans raison précise. Contrairement au cadeau que nous nous offrons à certains certaines occasions, le cadeau de Dieu à l'égard des pécheurs est tout autre. Il n'est pas mérité, c'est certain. Ce cadeau n'est pas là juste pour nous faire plaisir, c'est sûr. Ce cadeau divin révèle, c'est vrai, l'amour de Dieu pour nous. Et il démontre, selon les termes de l'apôtre Paul, la justice de Dieu. Et pourquoi ce cadeau dont nous allons parler dans quelques instants n'est-il pas mérité? Eh bien, regardez avec moi le verset 23, un verset qu'il est facile de retenir, même si la vérité n'est pas réjouissante du tout, ni en notre faveur. Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et juste avant, Paul dit bien qu'il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, qu'il n'y a pas, en fait, même pour nous, de différence entre nous dans cette salle. Tous égaux dans le péché, tous égaux dans la révolte à Dieu, tous égaux dans ce qui fait horreur à Dieu, à tel point qu'il prive le pécheur de sa gloire. Comment le Dieu saint pourrait-il accueillir dans sa présence ne serait-ce qu'un seul pécheur ? Et je m'adresse à celles et ceux d'entre nous qui sont tellement stricts au niveau de la propreté, en particulier dans leur maison. Allez-vous accepter joyeusement une personne avec les chaussures pleines de boue entrer chez vous alors que vous venez de nettoyer votre sol ? Je suis sûr que ça crée des frissons chez certains. Et j'utilise cette image pour rappeler que Dieu est bien plus exigeant, parce que saint, parce que étranger au péché, parce que parfait. Si déjà ça nous hérisse le poil de nous dire qu'une personne qui est bien sale entre chez nous alors que tout est propre, imaginez comment Dieu réagit face à un pécheur. Et si Dieu est totalement juste, il ne laissera entrer aucun pécheur chez lui. Il ne laissera aucun pécheur se présenter devant lui avec la boue du péché. Et nous n'avons pas seulement de la boue aux chaussures, mais nous avons fait du tort à Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes bien disposé à accueillir chez vous une personne qui vous a fait du tort ? Peut-être que votre première réaction, c'est non. Je n'ai pas envie de voir cette personne. Et je n'ai surtout pas envie qu'elle vienne chez moi. Mais le problème, c'est que nous, on a fait du tort à Dieu. Le problème, c'est que Dieu est offensé par le mal que nous faisons. Y compris le mal que nous faisons aux autres. Oui, ça lui cause du tort aussi. Et quand nous péchons, Dieu n'est pas respecté. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Quand nous péchons, Dieu n'est pas respecté. Le fait que l'homme pêche le sépare donc nécessairement de Dieu. L'homme a rompu de son propre fait la relation qui devait être harmonieuse avec son Créateur. Et la punition qui consiste à être privé de la gloire de Dieu n'est pas un châtiment exagéré, mais totalement juste et mérité. Mérité pour l'être humain révolté contre celui qui l'a créé. Voilà pourquoi le cadeau que Dieu nous fait n'est pas mérité. Quel est donc à présent ce cadeau non mérité ? Commençons à déballer ce cadeau. Verset 21. « Mais maintenant la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. » C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Nous l'avons abordé la semaine dernière. Puisqu'il n'y a pas un seul juste, aucun ne sera justifié en essayant de suivre la loi de Dieu tant bien que mal. Aucun ne sera déclaré juste de cette manière-là. C'est tout simplement impossible pour le pécheur d'obéir parfaitement à Dieu comme lui il l'exige. Impossible. Donc, le pécheur est déclaré coupable, à moins que Dieu n'intervienne dans l'histoire. Et Paul nous dit que la justice de Dieu, le fait qu'il déclare juste quelqu'un, a été manifestée. Il s'est passé quelque chose, un événement, pour que cette justice-là soit possible. Obéir à la loi de Dieu ne permet pas d'être déclaré juste par Dieu. Ça, c'est ce que nous lisons au verset 21. Et le moyen par lequel Dieu déclare juste des pécheurs, nous le lisons au verset 22, c'est la foi en Jésus-Christ. Et si vous fréquentez l'Église depuis un moment, vous avez, je l'espère, déjà entendu parler de la justification par la foi. Déjà, qui était attestée dans l'Ancien Testament. Et je n'en dis pas plus à ce sujet parce que nous le verrons la semaine prochaine sur le fait que cette justification a été attestée dans l'Ancien Testament. Nous sommes donc ici, alors que je suis en train de déballer ce cadeau, nous sommes donc ici au cœur de la bonne nouvelle. Il existe un moyen, il existe une solution pour que Dieu ne condamne pas un pécheur, tout en restant lui-même juste. Comment concevoir une telle justice ? Si quelqu'un est coupable, il est coupable. Comment Dieu fait pour que le coupable puisse être déclaré juste à un moment donné ? Le pécheur, qu'il soit juste, qu'il soit juif ou non juif, mérite d'être condamné. Mais, et le mais est important, mais Dieu est intervenu dans l'histoire. Et c'est explicite au verset 24. Je relis le verset 23. « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » La grâce. La grâce. Voilà pourquoi je parle de cadeaux non mérités depuis tout à l'heure. Vous avez remarqué l'insistance dans ce verset 24 ? « Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. » On aurait pu dire les choses plus simplement. Ils sont déclarés justes par sa grâce. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. C'est le cadeau avec une immense valeur, une valeur qui est infinie, qui est accordée par Dieu à des êtres qui l'ont offensé. La justification, le fait que Dieu déclare juste et non coupable, est un cadeau. Le fait que Dieu ne condamne pas le pécheur si répugnant que je suis est un cadeau. Comment une telle chose est-elle possible ? Retournons au verset 24. « Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Et on peut ajouter la première partie du verset 25. « C'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » En un mot, la croix. Car il y a 2000 ans de cela, il y a eu l'événement de la croix. Jésus mort pour nos péchés. Et c'est grâce à cet événement qu'aujourd'hui, à celles et ceux qui croient, qui ont la foi, Dieu accorde un statut particulier qui est propre à ceux qui croient. Ils sont déclarés justes, non coupables, non condamnés. Vous vous sentez méritant de cela ? Mais Dieu déclare non coupable. Je sais qu'on a l'habitude de l'entendre, parce qu'on le répète assez souvent. Mais pourtant, c'est ça qui s'est passé. Comprenons bien que c'est grâce à Jésus-Christ et à ce qu'il a accompli qu'il est possible, pour le Dieu parfaitement juste qu'il est, de nous pardonner et de nous déclarer justes. C'est une œuvre de libération, comme on le voit au verset 24. Et certains comprennent libération dans le sens de délivrance, d'autres dans le sens de prix payé par une rançon. Mais dans tous les cas, cela se rapporte à l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu s'est montré très patient, en fait. Et c'est ce que nous voyons au verset 25. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Évidemment, et vous le savez, hein, on peut facilement l'imaginer, avant la venue de Jésus, les hommes péchaient aussi, offensaient Dieu tout autant qu'aujourd'hui. Et au peuple d'Israël, eh bien, Dieu avait donné des instructions au sujet de sacrifices d'animaux pour expier leurs péchés, pour que leurs péchés puissent être punis d'une manière ou d'une autre. Et encore, eh bien, certains péchés, selon la loi de Moïse, ne pouvaient être expiés que par la mort du pécheur. Donc, pas de sacrifice possible. Mais revenons à cette idée de sacrifice. Un animal sans défaut était présenté devant Dieu, puis égorgé pour faire couler le sang. Ça, c'était nécessaire. Et voilà, l'animal mort à cause du pécheur et à la place du pécheur. Et ces sacrifices, quand ils étaient en tout cas respectés, hein, parce que ce n'était pas toujours le cas, eh bien, étaient innombrables. Il fallait sacrifier encore et encore, parce que les Israélites ne finissaient pas de pécher contre Dieu. Dieu a été patient jusqu'à la croix. Par rapport à toute cette histoire que je viens de vous raconter. Dieu a été patient jusqu'à la croix. Mais quand Jésus a donné sa vie sur cette croix, la justice de Dieu s'est manifestée publiquement. Parce que la croix, c'est un événement public. Ça n'a pas été fait en secret ou dans le temple ou je ne sais quoi. Non, ça a été un événement public. Et Dieu a manifesté donc sa justice de cette manière-là, publiquement. Et la valeur de ce sacrifice est tellement inestimable. Le Fils de Dieu donnant sa vie pour l'humanité. La valeur de ce sacrifice est tellement inestimable que les bénéfices de la croix concernent les pécheurs de tous les temps. Ceux qui vivaient avant Jésus-Christ, comme Abraham ou David, dont il sera question au chapitre 4, et ceux qui vivent après Jésus-Christ, comme nous. La valeur inestimable de ce sacrifice fait qu'il est valable pour les pécheurs de tous les temps, avant et après Jésus-Christ. En donnant Jésus pour qu'il meure pour nous, Dieu est resté entièrement juste. Et c'est ce que Paul affirme au verset 26. Il la démontre, c'est-à-dire cette justice, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Et le sang dont il est question au verset 25 nous rappelle le prix payé. Le prix payé, c'est-à-dire une vie qui a été ôtée. Et pas n'importe laquelle, celle de Jésus, Fils de Dieu. Vous trouveriez ignoble de ma part que par motif de méchanceté, je saisisse l'un d'entre vous et que je le cloue sur cette croix. Si je faisais une telle chose horrible, il y aurait des cris, de la colère et plein d'autres réactions. Et j'espère que vous trouvez ça horrible, ce que je viens de dire. Mais n'est-ce pas ce qui est arrivé à notre Seigneur ? On l'a pris, on l'a cloué sur une croix. Il a payé pour nos fautes parce qu'il le fallait. Il fallait que d'une manière ou d'une autre, justice soit faite. Et aucun, absolument aucun de nos péchés ne peut rester impuni selon la justice parfaite de Dieu. Soit c'est le pécheur lui-même qui est puni en tant que responsable de ses fautes. Et dans ce cas-là, ce serait totalement juste si le pécheur paie pour ses fautes. Et ce sens de la justice, nous l'avons un peu lorsque nous souhaitons qu'un criminel soit jugé pour son crime, qu'il soit déclaré coupable par le juge et qu'il reçoive une peine. Et on est d'accord avec cette justice-là. Mais en même temps, il en est de même pour nous devant Dieu, si Dieu appliquait une telle justice. Justice est faite si nous payons pour nos propres fautes. Mais la grâce remarquable de Dieu donne la possibilité qu'un juste paye pour le pécheur. Et là aussi, justice est faite. Dieu qui a des exigences si élevées prend en compte le sacrifice de Jésus pour les pécheurs, prend en compte le prix qui a été payé, prend en compte la rançon qui a été versée pour ensuite acquitter le coupable. Au lieu de regarder continuellement à nos fautes qui nous condamnent, Dieu regarde à la justice de Jésus, à sa vie parfaite, à sa mort sur la croix, à sa résurrection, et il prend en compte sa justice à lui comme si c'était la nôtre. Et vous connaissez sans doute ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 21, qui dit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Unis à Jésus-Christ, nous bénéficions de sa justice. Sa justice devient la nôtre. Et pourtant, c'est lui le véritable juste. Mes amis, la justification est définitivement un cadeau de Dieu. Encore faut-il recevoir ce cadeau. Parce qu'une fois qu'on l'a déballé, bon, moi je l'ai déballé devant vous, mais encore faut-il qu'on puisse le recevoir. Encore faut-il tendre les mains vides pour le saisir. La foi qui est nécessaire pour être déclaré juste ressemble en quelque sorte à ces mains ouvertes qui reçoivent le cadeau qui reste de toute façon immérité. Mais il faut tendre les mains pour recevoir le cadeau. Il ne va pas vous apparaître dans les mains comme par magie. Il faut faire cette démarche de tendre les mains. Disons-le clairement, la foi ne fait pas mériter ce cadeau, aucunement. Absolument rien en nous ne mérite la compassion de Dieu, ou son amour, ou sa patience, ou la justification qu'il accorde à celles et ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Rien en nous ne mérite sa compassion. Rien dans le pécheur, et nous le sommes tous, n'explique le don gratuit de Dieu. Et s'il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas encore tendu ses mains vides pour recevoir ce que Dieu donne comme cadeau, eh bien, elles peuvent le faire cet après-midi. Maintenant, en reconnaissant que tu es coupable devant Dieu à cause de ton péché, en reconnaissant que c'est contre lui que tu t'es révolté de ton plein gré, en reconnaissant que tu mérites sa colère, son châtiment, sa condamnation. Et voilà ce qui s'offre à toi. Mets ta confiance en Jésus. Car il est venu sur terre il y a 2000 ans, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Il est mort sur la croix alors qu'il n'avait absolument rien fait de mal. Il a en réalité porté le fardeau de nos injustices, de nos échecs, de nos trahisons, de nos offenses, et il est mort à cause de tout ça. Et en mettant ta confiance en Jésus, tu n'as donc plus de raison. Plus de raison de craindre la colère de Dieu. Plus de raison de craindre le châtiment de Dieu ou sa condamnation. Parce que tout a été accompli à la croix. Bien plus, Dieu te déclare juste pour toujours. Parce que ce que Jésus a accompli est valable pour toujours. Couvre tes péchés pour toujours. Et te permet d'être pardonné à jamais. Y a-t-il quelqu'un qui veut croire cet après-midi ? Que nous dit Paul dans les derniers versets de notre texte, les versets 27 à 30 ? Si Dieu déclare juste tous les hommes de la même manière, il n'y a aucune raison de se vanter. Il n'y a aucune raison de se sentir supérieur aux autres. Nous ne sommes pas meilleurs que le pire des pécheurs ou au-dessus du reste des hommes. Nous sommes de cette race-là que nous appelons pécheurs. Dieu n'a pas fait de favoritisme avec nous. Il a juste manifesté sa grâce. Et celles et ceux qui reçoivent son cadeau, les mains tendues, ont obtenu ce cadeau. Mais où est le mérite de tout ça ? Écoutons encore la parole de Dieu, verset 27. Où est donc la raison de se montrer fière ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi ou par le principe de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Vous voulez connaître la volonté de Dieu ? Il veut qu'aucun d'entre nous ne se vante. Tu as l'assurance d'être sauvé parce que tu crois. Tu n'as pas de raison de te vanter. Tu estimes avoir une moralité supérieure à ton voisin ou ta voisine. Tu n'as pas de raison de te vanter parce que Dieu ne te déclare pas juste à cause de ça. Tu as tendance, comme je l'ai dit au début, à te comparer aux autres et à remarquer en particulier les défauts des autres, leur manque de maturité, leur théologie défaillante, leur péché flagrant, leur comportement indigne d'un chrétien. Pourtant, tu n'as aucune raison de te vanter, de te montrer fier, parce que Dieu déclare juste celles et ceux qui ont foi en Jésus-Christ, indépendamment des œuvres de la loi. C'est grâce à Jésus, grâce à sa moralité totalement supérieure, c'est grâce à son obéissance parfaite à Dieu, c'est grâce à sa mort sur la croix que Dieu te déclare juste. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue, nous dit l'apôtre Paul. La croix a exclu toute raison pour un pécheur de se vanter de sa propre justice. Ce n'est pas toi qui a été cloué à la croix, et heureusement parce que je n'aurais pas été sauvé. Et en même temps, Paul le dit dans une autre lettre, la croix est notre fierté. Galates chapitre 6, verset 14, « Et en ce qui me concerne, dit l'apôtre Paul, je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre seul sujet de fierté, c'est la croix de Jésus-Christ. Et non nous-mêmes, jamais nous-mêmes. Si nous voulons mettre fin au règne de l'orgueil dans notre Église, nous devons revenir à l'Évangile. Nous devons revenir à la justification par la foi. Parce que ce cadeau qu'est la justification, nous l'avons reçu. Pour celles et ceux parmi nous qui ont fait confiance, qui ont tendu les mains vides vers Dieu, eh bien, ils sont déclarés justes, en dehors de toute autre œuvre. Dieu ne demande que la foi en lui, et non la confiance en nous-mêmes. Si tu as tendance, comme moi, à te comparer aux autres, regarde à Jésus et non aux autres. Regardons tous à Jésus et à ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce que nous faisons pendant le culte. Chaque semaine, lorsque nous rappelons la grâce de Dieu manifestée à la croix, nous regardons à Jésus et à ce qu'il a fait. Et ça nous a été rappelé encore tout à l'heure. Le culte que nous rendons à Dieu devrait bannir toute raison de nous vanter de nous-mêmes. Si tu as tendance à te croire meilleur que d'autres, ou peut-être, dans le cas contraire, pire que d'autres, regarde à Jésus et non aux autres. Regarde ce qui s'est passé à la croix, l'échange qui a été opéré. Jésus a pris ton péché et il t'a donné sa justice. Pour qu'aux yeux de Dieu, tu sois déclaré. Pour que tu sois déclaré juste. Cela concerne le meilleur comme le pire d'entre nous. Nous avons reçu en tant que croyants la même justification. C'est la même pour tous. C'est pourquoi on lit les versets 29 et 30. Ou bien Dieu est-il le Dieu des Juifs, ceux qui ont la loi ? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs ? Oui, il est aussi le Dieu des non-juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Avouons-le. Et je me permets de dire tout cela parce que c'est des pensées qui me traversent aussi, et j'ose espérer ne pas être le seul, mais avouons-le, il nous est difficile de nous dire que tel frère ou telle sœur, dont le comportement nous semble si peu digne, dérangeant, en deçà des standards de Dieu, comme si nous-mêmes nous étions à la hauteur, il nous est difficile de nous dire qu'un tel frère ou une telle sœur puisse, sur la même base que nous, être déclaré juste par Dieu. Nous avons tellement envie, nous pécheurs, de mettre des œuvres dans la balance de Dieu pour qu'il puisse rendre un autre jugement. C'est-à-dire nous déclarer justes, nous, mais pas les autres. Est-ce que je suis le seul à penser comme ça? Si on continue de développer cette pensée, on se dirait, mais c'est injuste que ce frère ou cette sœur qui a une vie si misérable soit déclaré juste au même titre que moi. Je suis meilleur. Et là, nous glissons dangereusement, sournoisement, vers une justification par les œuvres. Ou devrais-je dire par mes œuvres, par mon obéissance. La croix exclut une telle vantardise et nous conduit à regarder à nous pour dire plutôt « Je ne suis pas meilleur que les autres. Je pêche tous les jours. Et beaucoup de ceux qui m'entourent ne connaissent même pas à quel point je pêche. Je ne suis pas meilleur que les autres, je suis juste plus doué pour cacher mes péchés devant les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais devant la justice de Dieu, je suis comme les autres. Comme les autres, j'ai offensé Dieu. Comme les autres, c'est à cause de mes péchés que Jésus est mort sur la croix. Comme les autres, même en ayant compris la grâce de Dieu, je continue de pécher. Et j'en aurais honte si les autres savaient. Comme les autres, Dieu m'a déclaré juste le jour où j'ai tendu les mains vides vers lui pour recevoir son merveilleux cadeau. Comme les autres, Dieu pardonne mes péchés à chaque fois que je reviens à lui et que je demande son pardon à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Comme les autres. Ne dis pas, ne pense pas que tu es meilleur que tes frères et sœurs en Christ, mais loue Dieu, le Dieu unique qui déclare juste les hommes et les femmes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, et uniquement ces personnes-là. Quelque part, nous avons tous besoin de demander à Dieu qu'il change notre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu lui-même. Regard sur nous-mêmes d'abord. Restez encore un petit peu avec moi. Regarde sur nous-mêmes. Que Dieu continue, frères et sœurs, que Dieu continue de nous montrer à quel point nous avons de la boue sur les chaussures. À quel point nous continuons de l'offenser. À quel point nous résistons au changement qu'il veut opérer en nous. Et cette prise de conscience suscitée par le Saint-Esprit doit normalement nous conduire à la repentance. Ça, c'est le regard sur nous-mêmes. Regard sur les autres. Qu'est-ce qui doit changer? Que Dieu nous ouvre les yeux sur le cadeau qu'ils ont reçu. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont été déclarés justes comme nous. Ils ne sont plus condamnés comme nous. Et Jésus a payé pour eux comme pour nous. Et enfin, le regard sur Dieu lui-même. Que le Seigneur nous fasse contempler chaque jour sa grâce tellement incroyable à notre égard. Au lieu de nous laisser, de nous abandonner avec le poids de nos fautes, il a fait le déplacement. Jésus, Dieu fait homme, a fait le déplacement du ciel jusqu'à nous. Malgré notre péché qui le répugne, il a décidé de nous sauver, d'accorder son généreux pardon, de rétablir ce que nous avions rompu, de changer notre statut de condamné en justifié. Regarde à ton magnifique Sauveur et crois en lui, et non pas en toi-même, crois en lui. Sois fier de la croix de Jésus-Christ et jamais de ce que tu voudrais ajouter à la croix en termes d'œuvre, en termes de réalisation personnelle, en termes de projet d'église ou d'association chrétienne. La croix suffit. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ça ne changera rien à ce que Dieu pense de toi. Comme l'apôtre Paul nous en donne l'exemple, sois fier uniquement de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en conclusion, voilà où Dieu veut nous emmener personnellement et collectivement. Dieu nous a déclaré juste au moyen de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ, que nous avons placé en Jésus-Christ. Et cela exclut toute raison de nous vanter. Nous avons tous péché, mais gratuitement, grâce à Jésus-Christ, nous avons été déclarés justes. Il nous faut donc régler ce problème de l'orgueil au milieu de nous. Que Dieu lui-même nous rende humbles en nous rappelant son évangile de grâce. La grâce de Dieu exclut toute vantardise sous toutes ses formes. Et c'est là qu'il faut être sérieux avec la parole de Dieu. Allons-nous appliquer ce que Dieu nous a dit cet après-midi? Et nous verrons, dans les semaines qui suivent, la vie à laquelle Dieu appelle celles et ceux qu'il a déclarés justes, ainsi que de nombreuses raisons de nous réjouir et de louer Dieu. Et c'est là la bonne nouvelle que nous chérissons tant et qui doit nous pousser à adorer le Dieu de toute grâce, le Dieu qui nous a justifiés pour toujours. Amen. Prions ensemble. Tu dis dans ta parole, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Aucun châtiment à redouter pour l'éternité. Parce que tu as manifesté ta justice. Tu as manifesté ta justice en permettant qu'un juste puisse payer pour nous, à notre place, à cause de nos péchés. Et combien de fois, Seigneur, même en ayant compris cela, nous continuons, parfois par négligence, à t'offenser. Parfois volontairement, on s'endurcit. Vraiment, on ne se sent pas à la hauteur, Seigneur. Vraiment, on se sent totalement imméritant par rapport à ce cadeau magnifique que tu nous tends. Et merci pour celles et ceux qui ont tendu les mains pour le recevoir. Et je prie encore, Seigneur, si c'est le cas, effectivement, que d'autres puissent de même tendre les mains pour saisir ce cadeau qui vient de toi. Et que toi seul, Seigneur, tu en es l'auteur. Cette justification. Le fait que tu nous déclares juste, le fait que dès maintenant tu nous déclares juste, et le jour où nous nous présenterons devant le tribunal de Christ, nous serons aussi déclarés justes, parce que tu nous as justifiés pour toujours. Seigneur, permets-nous de pouvoir vivre en nous souvenant de cela, jour après jour, à pouvoir contempler la grâce que tu as manifestée dans ton amour en envoyant ton Fils Jésus-Christ. En considérant la croix qui est notre fierté, parce que notre justification est due à tout ce que lui, il a accompli pour nous. C'est grâce à sa justice que nous sommes justifiés. Merci Seigneur. Merci de considérer notre situation et d'avoir fait ce pas jusqu'à nous. Et merci de continuer à nous l'enseigner, à nous le rappeler chaque jour, parce que c'est nécessaire, parce que nous nous oublions facilement, parce que nous avons tendance à nous dire que tout est acquis. Mais on a juste besoin, Seigneur, que tu nous rappelles que c'est toi, Seigneur, qui as fait ce pas, qui est intervenu dans l'histoire et qui nous a déclarés justes. Oui, Seigneur, nous te prions. Que tu chasses tout orgueil de notre Église. Qu'aucun d'entre nous ne puisse se sentir supérieur à l'autre, car nous avons tous été justifiés de la même manière. Et tout motif de se vanter a été exclu. Et nous te bénissons pour cela. C'est au nom de Jésus qui a donné sa vie pour nous que nous te faisons cette prière. Amen.